Immanuel Kant, dans le cadre donc de nos rencontres autour de vérité et beauté, nous continuons ce parcours à pas de charge à travers l'histoire de la philosophie pour donc prendre en considération la question de la beauté dans sa relation avec la vérité. Immanuel Kant, fin XVIIIe siècle. Lors de la dernière conférence, nous avons quitté Saint-Augustin, 5e siècle. Ne s'est-il rien passé entre les deux? Ce serait étonnant, mais il est vrai que la réflexion esthétique n'a pas apporté grand-chose de nouveau jusqu'au XVIIIe siècle. Et cependant, entre-temps, il s'est passé quelque chose de radicalement nouveau. Non seulement quelque chose de radicalement nouveau, mais une véritable révolution, la révolution que l'Occident a connue, que je vais décrire là aussi de manière rapide et simplifiée, qui est la révolution de la modernité. Révolution de la modernité qui est opérée donc au XVIIe siècle, vous le savez, et sur quoi repose cette révolution de la modernité qui va nous mettre devant des enjeux tout à fait nouveaux concernant aussi bien la question de la vérité que la question de la beauté. Qu'est-ce que la révolution moderne du XVIIe siècle, avec des grands esprits comme Descartes, Huygens, Galilée, Pascal, Torricelli, enfin on aurait voulu y être. La première chose qui caractérise cette révolution moderne, c'est la naissance de la science, telle que nous la connaissons et telle que, en 3 siècles, c'est peu, elle a totalement, nous a conduit à totalement réviser notre vision du monde, elle a témoigné d'une fécondité extraordinaire dont nous ne nous sommes pas encore rassasiés. Et à quoi tient cette naissance de la science au XVIIe siècle? Eh bien, elle tient à ce que l'on appelle la vision mécaniste de la nature. Je simplifie à grands traits pour les besoins de notre exposé de ce soir. Vision mécaniste de la nature, ça veut dire que le monde est assimilé à une machine. Une machine, elle est faite de rapports de causalité mesurables et prévisibles. Rapports de causalité qui sont tels que si je modifie une des causes, je suis assuré de la modification de l'effet qui va s'en suivre dans une machine qui est un système clos et suffisamment fiable. Et donc cette vision mécaniste, elle est caractérisée par tout ce que nous connaissons, tout ce que nous continuons de vivre, qui est l'analyse, connaître un objet en le décomposant, qui est la quantification, mesurer tout, disait Galilée. Qu'est-ce qui apparaît au XVIIe siècle? La décision assez inouïe d'appliquer les mathématiques au réel, de mesurer. Et la conviction qu'en mesurant, on connaît. Et ça marche. Puisque ça permet des enchaînements prévisibles de causes et d'effets. Et ça permet des reproductions en laboratoire ou dans des mécaniques bien plus élaborées. Cette vision mécaniste, elle nous met donc devant une nature dominée. C'est le mot d'ordre cartésien, nous serons comme maîtres et possesseurs de la nature. Le grand texte de la 6e partie du discours de la méthode, où vraiment Descartes fait sonner l'ouverture de l'opéra moderne en disant nous devenons comme maîtres et possesseurs de la nature. Et donc cette nature est dominée, évidemment, à condition d'être muette. C'est-à-dire au même moment où elle est dominée, elle est traitée comme n'ayant pas par elle-même de sens, n'ayant pas par elle-même de message à délivrer. Et donc, nous dominons depuis 3 siècles, 4 siècles, la nature, à condition de la faire taire, et nous la faisons avouer, à condition de la faire taire, en quelque sorte, et nous en extrayons les lois. Pour la question qui nous intéresse, qui est celle de la beauté, l'enjeu est formidable. Parce que j'ai insisté chez Platon et chez Saint-Augustin, sur l'importance de la création et de la splendeur de cette création qui nous faisait remonter du visible à l'invisible, qui nous faisait remonter de cette nature à son créateur. Oui, mais une nature assimilée à une machine, comment lui reconnaître une beauté ? Cette nature réduite au silence, muette, figée en quelques mécanismes, ça n'est plus que par une sorte d'illusion que nous pourrions la voir belle. Nous avons d'ailleurs été avertis par Spinoza, car Spinoza dit « L'amant qui trouve belle la main de sa maîtresse, la trouverait-il belle s'il en voyait l'écorcher ?» Or, justement, toute l'émergence de la médecine, y compris donc, puisque la médecine elle aussi a bénéficié du modèle mécaniste, fait que le corps est assimilé à son écorché, à son schéma anatomique. Et d'ailleurs, si vous ouvrez Descartes, vous y verrez des très belles images, d'ailleurs, de bras comparés à des leviers avec des rapports de force, des yeux comparés à des loupes avec des angles de réfraction. Et donc, si l'œil est une loupe dans laquelle les rayons lumineux y arrivent avec une certaine incidence, comment trouverais-je encore beau les yeux de ma maîtresse ? C'est sans doute la raison pour laquelle le XVIIe siècle, ce que je dis est trop simple, mais ce n'est pas faux, pour lequel le XVIIe siècle ne nous laisse pas de grands textes sur la question de la beauté. Ce n'est pas une question qui, on n'a aucune page de Descartes, j'ai évoqué cette ligne de Spinoza, on n'a aucune page de Leibniz, des grands philosophes du XVIIe, Pascal, sur la question de la beauté. Tout se passe comme si cette question était oubliée, au privilège justement de celle de la vérité et de cette formidable efficacité connaissance scientifique naissante. J'insiste, cette nature assimilée donc à une machine, je disais qu'elle permet la domination, donc par là même, elle permet l'émergence, l'affirmation de la liberté de l'homme. C'est un homme libre, souverain, qui va justement arraisonner, selon le beau mot de Heidegger, qui va arraisonner la nature, pour exprimer la souveraineté de sa liberté. Et donc la conséquence dans la modernité, c'est la séparation, la distinction plutôt que séparation, la distinction sans compromis entre le règne de la liberté et le règne de la causalité. Une liberté souveraine, maîtresse d'elle-même, je suis maître de moi comme je suis maître du monde, c'est le Corneille et contemporain de ces gens-là. Une liberté souveraine face à une nature minéralisée et mécanique, si bien que Descartes peut, à juste titre, développer le thème de la distinction de l'âme et du corps, non pas de la séparation, de la distinction. Je sais ce que c'est qu'une liberté, je sais ce que c'est qu'un mécanisme, et l'homme est comme une liberté logée en un mécanisme. Tomber en un mécanisme peut-être, parce que fait cette liberté dans un monde où tout n'est plus que biel et rouage ? Et donc tout se passe alors dans la modernité. Alors ça c'est une question métaphysique que je ne développerai pas ce soir, mais je le dis pour ceux qui veulent rêver encore. Tout se passe comme si dans la modernité, Dieu ne pouvait plus parler dans la nature, sauf si on le traitait comme un horloger, ce qui sera le cas des mauvais auteurs du XVIIIe. qui vont dire ben, si la nature est un mécanisme, Dieu est un horloger. Mais personne ne s'intéresse à un Dieu horloger qui supposerait que nous fussions un rouage. Le chemin pour aller à Dieu chez Pascal, chez Descartes et chez Leibniz lui-même et même chez Spinoza est au fond un chemin qui passe non plus par la nature que l'on admirerait, mais par l'homme qui est lui vraiment admirable, qui est lui vraiment étonnant. Et ce n'est plus les escargots, ni les fleurs, ni les étoiles qui sont étonnantes, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait un homme là-dedans. Et donc, c'est l'énigme de la liberté qui va refonder la métaphysique. Je ne le développe pas, mais c'est un point tout à fait fondamental pour comprendre les enjeux de notre culture, qui met en évidence donc, le plus mystérieux, c'est que le monde soit compréhensible aux hommes. Alors, évidemment, ce sujet souverain face à une nature mécanique a de la peine à poser la question de la beauté, comme je le disais à propos de l'apologue de Spinoza sur la main de ma maîtresse. Et si bien que la question de la beauté ne peut plus être celle de la chose belle, du réel beau, comme on le voit dans l'apologue de Spinoza. Une main, est-ce que c'est beau? Et du coup, la question de la beauté ne portera plus sur l'être de la chose belle, la chose qui est belle, mais sur l'expérience de la beauté. Et si bien que la question que Kant va nous conduire à poser ce soir n'est pas « qu'est-ce qui est beau ?» mais « qu'est-ce que je dis quand je dis qu'une chose est belle ?» Qu'est-ce que je dis quand je dis qu'une chose est belle ? C'est-à-dire « quelle est l'expérience qu'une conscience fait du monde quand elle dit « c'est beau ?» Qu'est-ce qui caractérise cette expérience que, après tout, la conscience pourrait faire par rapport à n'importe quel objet du monde ou n'importe quel objet esthétique? C'est alors, et enfin, pour ma part, ça me passionne, et j'espère vous faire partager cette passion, c'est alors que, à la différence de Platon et d'Augustin, dont j'avais dit, bon, pour eux, c'est vrai que ce sont des artistes, ce sont des esthètes, mais au bout du compte, ils n'accordent à l'art qu'une place mineure. C'est alors qu'il va être possible d'accorder à l'art une place souveraine. Parce que tout se passe comme si ce monde devenu étranger, minéral, où l'expérience de la beauté n'est plus possible, en tout cas au bout d'une connaissance, devait être sauvé par l'artiste et que c'est lui qui va être en mesure de manifester une relation au monde qui, par ailleurs, est assez utilitaire et neutre. Donc la place de l'esthétique dans la modernité, à partir du XVIIIe siècle, pensez par exemple au salon de Diderot, la place de l'esthétique va devenir importante parce que l'interrogation des héritiers de la modernité, c'est-à-dire l'interrogation des hommes du XVIIIe, c'est qu'en est-il de la sensibilité ? Oui, je sais, mon esprit peut analyser le réel, je peux le dominer, je peux le maîtriser. Oui, je sais, je peux très bien distinguer l'âme et le corps, je peux très bien distinguer le règne de la liberté et de la causalité. Mais qu'en est-il de la sensibilité ? N'y a-t-il pas entre la sensibilité, entre le règne de la liberté et le règne de la causalité, un checkpoint Charlie, un point de passage ? Et s'il y a un point de passage entre le règne de la sensibilité et le règne de entre le règne de la liberté et le règne de la causalité, eh bien ce sera celui de la sensibilité, d'où l'explosion de la sensibilité au XVIIIe, où on commence à s'évanouir, à pleurer à tour de bras, et la prééminence de l'artiste, comme celui qui va éclairer ce point resté obscur entre le règne de la liberté et le règne de la causalité. J'insiste. L'expérience de la beauté va devenir cruciale, et elle est pour nous cruciale, On peut le montrer aisément dans les conversations, dans les usages du temps. Parce que la question devient, comment est-il possible qu'une liberté loge dans une nature indifférente ? Comment est-il possible qu'une liberté loge dans une nature indifférente, qui serait indifférente d'ailleurs au bien comme au vrai ? Et si bien que l'expérience esthétique devient fondamentale parce que c'est elle qui nous suggère que ce monde minéral dans lequel une liberté est logée est cependant habitable. Voilà, le beau me suggère que je peux faire une expérience d'un monde habitable, c'est-à-dire d'un monde dans lequel la liberté n'est pas complètement étrangère aux rouages et aux bielles d'un monde minéralisé et mécanicisé. Et c'est la raison pour laquelle Kant, j'en viens à lui, après la critique de la raison pure, après la critique de la raison pratique, écrit la critique de la faculté de juger, justement, dit-il, pour jeter un pont sur l'abîme qui sépare le règne de la liberté et le règne de la causalité. Et si on peut jeter un bond par-dessus cet abîme, donc ça sera dans l'expérience esthétique que nous avons, à ses yeux, quelques chances de le retrouver. Et c'est... Alors, je vous signale que ceci est très présent dans nos mentalités. Avez-vous remarqué, par exemple, que depuis 4-5 ans, l'usage devient de ne plus souhaiter une bonne année, mais une belle année. Curieux, hein ? Avez-vous remarqué que depuis quelques années, les tentatives d'apologétique par lesquelles les chrétiens s'époumonnent à faire comprendre à leurs contemporains l'importance de la foi passent par la beauté, le chemin de l'esthétique, plutôt que celui de la morale qui fait un peu pisse-froid, plutôt que celui de la connaissance qui nous semble inaccessible. On se dit, allez, dans la beauté, on va avoir une expérience spirituelle accessible à tous et on pourra mettre les gens sur le chemin de Dieu par la beauté, puisqu'on ne peut plus les mettre sur le chemin de Dieu par la morale, vu comme ils vivent, et on ne peut plus les mettre vers le chemin de Dieu par la connaissance, puisque cette connaissance ne nous donne que des atomes qui tournent en silence. Alors, il nous faut sauver le monde par la beauté, d'où la formule de Dostoïevski que tout le monde va répétant, la beauté sauvera le monde. C'est-à-dire qu'il faut sauver ce monde de sa possible insignifiance. Et c'est la beauté qui nous le permettrait. L'austère Kant, qui n'est pas très susceptible d'être un artiste, tient des propos qui correspondent à ce que j'essaye de dire. Au paragraphe 6 de l'introduction de la critique de la faculté de juger, il dit « La découverte de la possibilité de l'union de deux ou de plusieurs lois empiriques de la nature hétérogènes sera d'autre part le fondement d'un plaisir très remarquable, souvent d'une admiration, et même d'une admiration qui ne cesse pas, bien que l'on en connaisse déjà suffisamment l'objet. » Sans doute, nous n'éprouvons plus de plaisir remarquable devant la compréhensibilité de la nature et son unité dans la division en genre et en espèce, grâce à laquelle sont seulement possibles des concepts empiriques qui nous permettent de la connaître. Mais ce plaisir a certainement existé en son temps, et c'est uniquement parce que sans lui, l'expérience la plus commune n'aurait pas été possible, qu'il s'est peu à peu mêlé à la simple connaissance et n'a plus été particulièrement remarqué. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le sombre célibataire de Königsberg ? Il est en train de nous dire que, au fond, dans la connaissance même que nous avons du monde, il y a une source d'admiration. Et, par exemple, je prends cette analogie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne sais pas ce que Kant en penserait, mais la connaissance que je peux avoir de l'astronomie ne départ pas la beauté du ciel. Au contraire, au fond, elle l'enchante. Et donc, ce monde n'en devient que plus admirable. Mais qu'est-ce qui est admirable ? c'est pas le monde, c'est que le fait que je le connaisse. C'est incroyable que je le connaisse. C'est ce que dit Einstein. Ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Et que moi, qui ne suis qu'un petit roquet qui jappe d'une voix malingre dans l'univers, j'ai de quoi le comprendre. Et ayant de quoi le comprendre, j'ai aussi de quoi admirer cette place de l'homme. Voilà ce qui nous met devant l'importance nouvelle de la question esthétique au moment où Kant s'en saisit. Dans une évolution de l'histoire qui est celle donc de la domination chère payée sur le monde, pose la question donc de savoir dans quelle mesure ce monde est habitable pour une conscience. Et c'est pour ça que la beauté nous dit, c'est pas possible que ce monde n'ait pas de sens. Et s'il n'est pas possible que ce monde n'ait pas de sens, eh bien, il est possible qu'une liberté y loge. Alors que si ce monde n'est que un ensemble silencieux de rouages, on ne voit pas bien ce qu'une liberté vient y faire. Ouvrons donc maintenant Immanuel Kant dans la critique de la faculté de juger, donc qui est la troisième critique dans laquelle il s'empare donc de cette question de l'esthétique. D'ailleurs, je le dis, pour ceux qui s'aventureraient à parcourir la critique de la faculté de juger, souvent les lecteurs de la critique de la faculté de juger sont étonnés parce que ce livre est fait de deux parties dont on se demande ce qu'elles viennent faire ensemble, une partie sur l'esthétique et puis une partie sur la vie, la nature, etc. Mais qu'est-ce qu'elles viennent faire ensemble, ces deux parties? C'est que justement, la grande énigme laissée par le mécanisme, c'est qu'en est-il de la vie dans la nature? Qu'en est-il de la sensibilité? Qu'en est-il du vivant? Et donc, la beauté serait, en quelque sorte, une expérience même du vivant. Je développerai trois points. Le premier, de manière très scolaire, sans prétention à l'innovation, les quatre critères du beau selon Immanuel Kant, parce que vous êtes aussi venu pour vous instruire et vous avez raison. Le deuxième point, je ferai un développement sur la place nouvelle de l'art et du génie. Voilà que l'artiste va prendre une place. Enfin, il l'avait déjà prise. Les philosophes arrivent un peu tard et consacrent la place prise par l'artiste qui va devenir surdéterminé au XIXe siècle. Et je terminerai par l'analyse d'une notion que Kant introduit au terme de sa démarche, qui est la notion de sublime comme chemin au-delà du beau, qui nous ouvrira au romantisme. Nous sommes à la fin du XVIIIe. Le mouvement Sturm und Drang commence à apparaître. Dans la critique de la faculté de juger, Kant caractérise l'expérience du beau par quatre traits concernant la qualité, la quantité, la relation et la modalité de cette expérience. Il s'agit, j'insiste à nouveau, des caractères de l'expérience esthétique et non pas des caractères de la chose. Il faut bien retenir ça. Donc nous sommes dans la modernité, c'est-à-dire qu'on va parler de l'expérience du sujet. Cette expérience esthétique, elle est un plaisir. Qu'est-ce qui est beau? Ce qui plaît. Donc entre la minéralité insensible et la liberté souveraine, il y a une expérience beaucoup plus complexe qui est celle du plaisir et de la peine, assez mystérieuse, dans laquelle ce sujet souverain s'éprouve comme vulnérable, au fond. Il est embêté d'avoir du plaisir et de la peine. Comme maître du monde, il conviendrait qu'il n'en eût point. Et donc, il va falloir s'interroger sur la signification de ce plaisir. Et évidemment, on reste dans la grande tradition, heureusement, le plaisir propre à la beauté est un plaisir qu'il convient de distinguer de la satisfaction d'un besoin. Puisque, comme Platon le faisait remarquer, le plaisir esthétique est un plaisir qui n'est précédé d'aucun manque. C'est pourquoi il est suprêmement libre. Donc le plaisir de manger est précédé d'un manque. J'ai quand même difficilement du plaisir à manger quand j'ai pas faim. Le plaisir esthétique n'est pas précédé d'un manque. Peut-on manquer de beauté ? Possible. Possible. Mais enfin, c'est quand même une expérience rare. Je pense que c'est l'expérience que les soviétiques devaient faire dans le monde soviétique. J'y ai vécu 3 semaines, ça m'a suffi. Et au bout de 3 semaines, j'avais vraiment l'impression de manquer de beauté. Mais je ne regarde pas un tableau un tableau de Cézanne parce que les pommes me manquent. Je n'ai pas faim en regardant un tableau de Cézanne et le plaisir que j'ai à regarder les pommes de Cézanne n'est pas augmenté par la faim. Je serais même plutôt contrarié par la faim car ces pommes sont fort décevantes si j'ai faim. Donc on rejoint bien ce que l'on a aperçu chez Platon et chez Saint-Augustin, c'est qu'il y a une expérience de la liberté au plus profond du plaisir et de la peine, au plus profond de la sensibilité dans ce qu'elle a apparemment de plus obscur et de plus vulnérable, de plus incontrôlable aussi. Et cependant, c'est une expérience de la liberté parce que précisément, donc, ça n'est pas le corrélat d'un besoin et d'une nécessité biologique qu'il faudrait assouvir. À vrai dire, ce que nous montre Kant, c'est que ce plaisir propre à la beauté, c'est justement le plaisir de se sentir libre. Non pas un plaisir qui satisfait un besoin, mais le plaisir qui montre, qui me manifeste comme exonéré des besoins, comme étant une libération par rapport à la servitude, à la précarité des besoins. Et c'est ainsi que l'expérience esthétique peut être pleinement une expérience du sujet en tant qu'il se sent libre dans la sensibilité même. D'où la première caractéristique de la beauté, première définition de la beauté par Kant, elle est très connue de ceux qui ont quelques souvenirs scolaires. Le goût est la faculté de juger d'un objet et d'un mode de représentation sans aucun intérêt, par une satisfaction ou une insatisfaction. On appelle beau l'objet d'une telle satisfaction. Définition, donc, le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Je viens de le dire, elle n'est pas augmentée par le besoin ou la nécessité dans laquelle, alimentaire ou sexuelle, dans laquelle je me trouverais. Que veut dire intéressé ? Alors Kant nous aide à préciser cette notion, intéressé, cela signifie qu'il m'importe que l'objet soit réel. Et donc lorsque Kant dit que le beau est l'objet, est l'expérience d'une satisfaction désintéressée, alors il éclaire d'un jour tout à fait nouveau la relation du vrai et du beau, parce que si dans l'expérience du beau, il ne m'importe plus que l'objet soit réel, alors l'expérience du beau peut être dissociée de celle du vrai. Alors l'expérience du beau peut être dissociée de celle du bien, on le verra. Et donc c'est cette dissociation du vrai, du beau et du bien qui caractérise la modernité, qui fait qu'il peut y avoir des fleurs du mal. Et qu'après tout, on peut se dire qu'il y aurait même une beauté de l'imaginaire et même d'une sorte de négation vengeresse du réel. Nous pouvons nous pencher sur le texte numéro 7 de notre recueil. Si quelqu'un ne l'a pas, on peut, je pense, en demander. On nomme intérêt la satisfaction que nous lions avec la représentation de l'existence de l'objet. Elle a donc toujours une relation avec la faculté de désirer. Lorsque toutefois la question de savoir si une chose est belle, on ne désire pas savoir si nous-mêmes ou toute autre personne portons ou même pourrions porter un intérêt à l'existence de l'objet. mais comment nous le jugeons en le considérant simplement. Si l'on me demande si je trouve beau le palais que je vois devant moi, je puis sans doute répondre « Ah, je n'aime pas ces choses qui sont faites pour les badauds » ou encore répondre comme ce sachet mirocois qui n'appréciait que les rôtisseries à Paris, je peux encore déclamer à la manière de Rousseau contre la vanité des grands qui abusent du travail du peuple, etc. On peut m'accorder tout cela et l'approuver. Toutefois, ce n'est pas là la question. On désire uniquement savoir si la représentation de l'objet est accompagnée en moi d'une satisfaction. Aussi indifférent que je puisse être, voire même hostile, aussi indifférent que je puisse être à l'existence de l'objet de cette représentation. On voit aisément que ce qui importe pour pouvoir dire un objet beau et prouver que j'ai du goût, c'est ce que je découvre en moi en fonction de cette représentation et non ce par quoi je dépends ou je dépendrai de l'existence de l'objet. Chacun doit reconnaître qu'un jugement sur la beauté en lequel se mêle le plus petit intérêt est très partial et ne peut être un jugement de goût pur. Et donc, cette représentation d'une femme, sa beauté n'est pas liée au fait que cette femme soit réelle, qu'elle existe quelque part, que je pourrais la rejoindre dans un monde empirique. Si bien que nous en arriverons rapidement à l'importance de l'art, qui ne sera donc pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Tout le passage à la modernité est là-dedans. Non pas représentation d'une belle chose, mais belle représentation d'une chose. Et belle représentation d'une chose, cela veut dire que c'est la relation de l'homme à cette chose qui est l'expérience de la beauté et non pas la chose. Ceci caractérise toute la modernité. Allez, puisque je vous vois patient, je vais insister et je vais carrément vous faire un cours. Trois transcendantaux, le vrai, le beau, le bien. Y a-t-il un objet absolu de la raison, le vrai? Y a-t-il un objet absolu de la volonté, le bien? Y a-t-il un objet absolu de la sensibilité, le beau? La vision classique du monde, c'est que le vrai, le beau et le bien consonnent, puisque on a insisté, par exemple, avec saint Augustin, sur le fait que toute chose est bonne et belle en tant qu'elle est. Vous voyez le changement de monde? Maintenant, je peux me dire, qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, ce qui est vrai, ce n'est pas le réel, mais c'est ce que je dis du réel. Ce qui est vrai, ce n'est pas la chaise ou l'objet, c'est ce que je dis de l'objet. Et donc, à ce moment-là, le vrai bascule dans le sujet, et non plus dans l'objet. Qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, ce n'est pas de faire telle chose. Par exemple, donner à un pauvre. Mais c'est ce qui est dans l'intention du sujet. Et donc, même basculement de l'objet au sujet, même basculement du réel externe à la conscience. Le vrai n'est pas la chose, mais ce que je dis de la chose. Le bien n'est pas le geste, mais l'intention que j'y mets, et donc tout est dans le sujet. Eh bien, il se passe exactement, nous sommes en train de voir qu'il se passe exactement la même chose dans le beau. Ce qui est beau, ce n'est pas la chose, mais la représentation que j'ai de cette chose fut-elle une charogne, comme dans Baudelaire. Une charogne est-elle belle? Dans Baudelaire, oui. Puisque ce qui est beau, c'est la représentation de la chose et non plus la chose. Voyez l'importance du basculement moderne sur lequel j'ai insisté un peu trop, mais je suis prêt à insister encore. Parce que tant qu'on n'a pas compris ce basculement, il y a un malentendu dans toutes les conversations philosophiques. Et quand je dis conversation, je suis gentil. D'où, première définition du beau, donc l'objet d'un plaisir désintéressé. Deuxième caractéristique du beau, pour, selon Kant, ce qui plaît universellement sans concept. Ce qui plaît universellement sans concept. Que signifie universellement? Universellement ne signifie pas accordé par tous. Accordé par tous, c'est pas universel, c'est général. 2 plus 2, c'est universel quand même il y en aurait-il un qu'il penserait. Et donc, ne confondez pas, décidément ce soir je suis scolaire, mais c'est Kant qui nous y oblige un peu. Gardez-vous de confondre universel et général. Quand bien même une thèse serait-elle accréditée par la totalité des hommes, elle n'est pas pour autant universelle, elle est commune ou générale. Que signifie universel en philosophie ? Universel signifie indépendant des conditions. Car on est assuré que ce qui est indépendant des conditions est tel que tout esprit libre peut y accéder. Et d'où l'importance de la définition, ce qui plaît universellement sans concept. Car la beauté est donc une expérience de l'universel qui, cependant, ne donne aucune connaissance. Nous avons un certain accès à l'universel, la raison. La raison est un accès à l'universel. La preuve, c'est que les mathématiques, tout esprit, s'il est suffisamment dans le silence des passions, peut en faire. Nous connaissons bien l'universel en tant qu'il est lié au concept. Nous connaissons moins bien l'universel sans concept, qui est l'expérience de la beauté. Pourquoi Kant dit-il sans concept ? C'est-à-dire que pour faire l'expérience de la beauté, je n'ai pas besoin d'avoir la connaissance de la chose. Un fleuriste ne trouvera pas plus belle une fleur. Et c'est comme ça que Kant distingue la beauté adhérente et la beauté libre. La beauté adhérente, c'est celle qui découle du concept. La beauté libre, c'est celle qui est expérimentée par le sujet justement au moment où il apprécie librement, c'est-à-dire universellement, cette expérience. Au cours de la première séance, pour ceux qui y étaient, j'ai évoqué cette expression qui atteste les origines du mot beauté, quand on dit un beau salaud ou une belle tumeur. Mais un beau salaud, c'est une beauté adhérente, c'est-à-dire c'est un salaud qui correspond parfaitement à la définition du salaud. Ce n'est pas un salaud beau. Je peux très bien ignorer la définition de la fleur, je peux très bien ignorer le nom de la fleur, je ne la trouverai pas moins belle. Donc la beauté ne nous donne aucune connaissance, elle ne dépend d'aucune connaissance, elle ne dépend pas d'une connaissance, elle n'en donne aucune, et cependant elle est porteuse d'une expérience universelle, parce qu'elle est porteuse d'une expérience de liberté. Et que, dans l'ignorance même où je serai du nom de la fleur, je ferai rigoureusement la même expérience de beauté. D'où la troisième définition de l'expérience du beau selon Kant, qui est la forme d'une finalité sans fin. Forme d'une finalité sans fin, ça veut dire que ce qui est beau nous plaît par l'agencement de ses parties. Mais cet agencement de ces parties n'est pas semblable à celui qui préside à l'utile. L'utile a ses parties agencées comme une mécanique en vue d'une efficacité, en vue d'un résultat. La beauté n'a pas à rendre compte de l'utilité, c'est-à-dire que une expérience de beauté est bien l'expérience d'une finalité, mais d'une finalité sans utilité. Il faut distinguer le sens et l'utile. L'utile, il y a des gens qui disent à quoi ça sert la vie. Question vraiment d'une stupidité profonde. Car si la vie servait, elle n'aurait pas de sens. Ce qui sert n'a pas de sens. Car ce qui sert voit sa justification en dehors de soi. Si le couteau sert à couper, la justification du couteau est en dehors du couteau. Si moi je sers à quelque chose dans la vie, ma justification est en dehors de moi. Alors que si je dis que ma vie a un sens ou si je dis que le couteau a un sens, c'est indépendamment de l'objet auquel cette réalité est reliée, dans la mesure où précisément donc une liberté peut en faire l'expérience. Et donc, la forme d'une finalité sans fin, c'est vraiment une expérience de la liberté. Parce que je ne suis plus asservi à l'ordre de l'utile qui sans cesse me fait courir vers des résultats, vers des ajustements extrinsèques. Ce qui est utile n'est justifié que de manière extrinsèque, ce qui a sens est justifié en lui-même. On répète trop souvent le mot, à la suite de Heidegger, le mot de, on reviendra là-dessus d'ailleurs, le mot d'Angelus Silesius, la rose et son pourquoi. Si, la rose et son pourquoi, ça signifie précisément qu'elle a du sens parce qu'elle n'a pas d'utilité. Et qu'elle aurait, en quelque sorte, d'autant moins de sens qu'elle aurait plus d'utilité. Et donc, si on se demandait à quoi on sert, enfin, de temps en temps, on sert à quelque chose, parfois à quelqu'un, mais c'est ce qui fait qu'on est prêt à nous jeter dès qu'on ne sert plus à quelque chose ou à quelqu'un. Et si le sens de la vie est en lui-même, cette vie est précieuse, même quand elle ne sert plus à quelque chose ou à quelqu'un, ça en surprendrait beaucoup. Quatrième définition du beau, le beau est ce qui est reconnu sans concept, comme l'objet d'une satisfaction nécessaire. Le beau est ce qui est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire. Que signifie ici nécessaire ? Non pas conditionné. L'expérience du beau, vous l'avez compris, n'est pas conditionnée. Elle n'est pas conditionnée par les besoins, elle n'est pas conditionnée par les circonstances, par des agencements et des causes extérieures. Nécessaire, au fond, coïncide avec gratuit. Parce que précisément, ce qui est parfaitement nécessaire, c'est ce à quoi je ne peux rien ajouter et rien enlever, parce qu'il exprime une perfection. Quand je fais l'expérience de la beauté, mettons d'une cruche, je fais l'expérience d'un objet où tout est parfaitement nécessaire. Non pas parce que la cruche, c'est utile, mais à cette cruche, je ne pourrais rien enlever, rien ajouter. C'est ce qui distingue l'expérience de la beauté de celle de l'ornement, de ce qui est décoratif et superfétatoire. Les rares moments où nous avons une expérience authentique de la beauté, c'est que tout y est absolument nécessaire, c'est-à-dire que tout y est absolument à sa place, tel que on ne peut rien ajouter et rien enlever. Ainsi, il n'est pas surprenant qu'être libre et faire l'expérience de la nécessité aillent ensemble, si on ne confond pas nécessaire avec conditionné. La beauté est une expérience inconditionnée. Allez, poussons le paradoxe jusqu'au bout, expérience inconditionnée, donc nécessaire. Et vous pouvez repartir avec ce paradoxe et vous dormirez tranquille. Et puis ça vous permettra de ne plus supporter un certain nombre de conversations. Au terme de ces quatre définitions, nous pouvons reposer la question, qu'en est-il alors du rapport avec le vrai et qu'en est-il même du rapport avec le bien ? Car vous le voyez sans doute, l'expérience de la beauté n'est pas liée à la connaissance de la vérité. L'expérience de la beauté n'est plus lié non plus à la vertu de ce qui est représenté, à l'honnêteté de ce qui est représenté, au bien que cela manifesterait. Cependant, en tant que l'expérience de la beauté est l'expérience d'une liberté et d'une universalité, c'est un analogue du vrai et un analogue du bien. La beauté ne dépend pas de la vérité de ce qu'elle représente, mais elle est un analogue du vrai parce qu'elle a la forme d'une universalité. La beauté ne dépend pas du bien, elle n'est pas morale par elle-même, je ne vais pas exiger d'une beauté qu'elle soit morale, mais cependant elle est un analogue du bien parce qu'elle est une expérience de la liberté. Allons rapidement au texte numéro 8. Je dis donc, alors, qui permet d'intervenir dans le débat, vous savez, beauté-moralité, débat qu'on retrouve tout le temps. Qu'importe que l'œuvre soit morale, pourvu qu'elle soit belle, enfin bon. Kant nous éclaire, texte numéro 8, paragraphe 59 de la critique de la faculté de juger. Je dis donc, le beau est le symbole du bien moral. Et c'est à ce point de vue qu'il plaît et prétend à l'assentiment de tous. Et en ceci, l'esprit est conscient d'être élevé au-dessus de la simple aptitude à éprouver un plaisir par les impressions des sens. Quand je vois le beau, je me sens meilleur. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur. C'est un analogue de l'expérience morale. Il paraît que quand on fait quelque chose de moral, on se sent meilleur. Je manque un peu d'expérience. Mais en tout cas, certainement, quand je vois quelque chose de beau, je me sens meilleur. C'est un analogue de l'expérience morale parce que je me sens plus libre. Comme quand on s'arrête de fumer. Si, voilà, j'ai cette expérience, s'arrêter de fumer. Je relis donc. Le beau est le symbole du bien moral. C'est à ce point de vue qu'il plaît et prétend à l'assentiment de tous. Et en ceci, l'esprit est conscient d'être élevé au-dessus de sa simple aptitude à éprouver un plaisir par les impressions des sens. Et il estime la valeur des autres par une maxime semblable de sa faculté de juger. Il s'agit de l'intelligible vers lequel regarde le goût et en rapport auquel nos facultés supérieures de connaître s'accordent et sans lequel des contradictions surgiraient entre leur nature et les prétentions qu'élève le goût. Donc vous voyez, c'est un analogue du bien parce que je me sens libre, et c'est un analogue de la connaissance parce que la forme me donne l'image d'un ordre. Comme la connaissance, les mathématiques, c'est beau. Et quand je vois quelque chose d'ordonné, et quand je vois une forme parfaite, j'ai un analogue de la connaissance. J'ai l'image d'un ordre. C'est pas vrai, mais ça ressemble au vrai. C'est une expérience sensible analogue à celle du vrai. C'est pas peut-être pas bien, mais c'est analogue au bien. C'est me donne une expérience sensible qui est le symbole du bien. Donc je ne peux pas exiger d'une œuvre qu'elle soit morale, mais si une œuvre est belle, elle porte une moralité en elle-même. Je ne peux pas exiger d'une œuvre qu'elle soit vraie. Elle pourra peut-être porter sur des peuplades qui n'existent pas, j'en sais rien, sur des êtres, des cactus pensants, je m'en fiche. Mais elle sera au moins analogue à quelque chose de vrai. À grands pas, qu'en est-il alors de l'art ? Si l'expérience esthétique, par un libre jeu des facultés, suggère donc la résolution de la crise entre liberté et nature, la réconciliation dans le sensible du monde de la liberté et du monde de la causalité, alors l'art, plus encore que la moralité et plus encore que la philosophie et la science, a une mission qui est justement de manifester cette unité du sensible et de l'intelligible, cette unité du matériel et du spirituel, de l'âme et du corps, prenez ce que vous, l'expression que vous voulez. Et en effet, ce qui distingue l'art de la technique, c'est précisément donc qu'il se défait des contraintes d'efficacité et que donc il est comme belle représentation d'une chose, une expression de la liberté. Donc l'art n'est pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose, telle est l'assertion kantienne. Et c'est bien ce qui distingue aussi chez Kant, non seulement l'art de la technique, mais c'est aussi ce qui distingue l'art des arts d'agrément, car les arts d'agrément, eux, visent directement au plaisir. On se demande parfois, la cuisine est-elle un art ? Je veux bien discuter de cette question, mais il m'est arrivé d'en discuter avec des cuisiniers auxquels j'ai dit, la cuisine sera un art le jour où la cuisine sera, par exemple, capable d'être tragique. Bon, elle l'est parfois, mais involontairement. Donc la cuisine est au mieux un art d'agrément, c'est-à-dire qu'elle a pour but de nous apporter des satisfactions. Et tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Mais lui donner le statut d'un art et donner à un cuisinier le statut d'un artiste, c'est d'ailleurs complètement superfétatoire. De la même manière qu'il faut distinguer l'art et la technique, il faut distinguer l'art et les arts d'agrément qui visent à un plaisir, qui est justement un plaisir intéressé, un plaisir en tant qu'il est intéressé. Comment cette expression de forme provoquée par un homme, construite par un homme, peuvent-elles nous manifester de manière éminente notre dignité, notre liberté ? Il faut alors que l'artiste soit distinct de l'artisan. L'artisan, dont les œuvres sont respectables, ne manifeste pas de manière imminente notre liberté. Il reste dans l'ordre du servile. Et donc, si je dis que l'artiste est celui qui va avoir pour mission de conduire les sujets à l'expérience de leur liberté, je suis amené à donner à cet artiste un rôle quasi sacerdotal. C'est ce qui se passe à partir du XVIe siècle dans les Beaux-Arts, et c'est ce qui va se développer jusqu'au XIXe siècle, et puis même encore quelque peu au XXe, avec une espèce de figure sacerdotale et prophétique de l'artiste qui conduit les peuples. Et pourquoi conduit-il les peuples ? Parce que il fait éclater l'étroitesse des habitudes et des perspectives utilitaires. Et c'est pourquoi il est prophète. Apparaît alors, sous la plume de Kant, la figure décisive, alors qui sera combien importante dans le romantisme, du génie. La figure de l'artiste va tendre à se confondre alors avec celle du génie. Pourquoi ? Eh bien, je disais, l'expérience du beau, elle est un point de contact entre le monde de la nature et le monde de la liberté. Un checkpoint Charlie, disais-je, un point de passage entre le monde de la nature et le monde de la liberté. Eh bien, s'il y a un génie, il est un point de passage entre le monde de la nature et le monde de la liberté. Car s'il y a un génie, il est naturellement génie. Génie, genus, ça vient de sa naissance. Il est génie sans l'avoir choisi, il est génie emporté par une sorte de vocation ou de destin, que sais-je. Et cependant, il exprime de manière suréminente la grandeur de l'esprit. Il y a donc chez l'artiste à la fois cet aspect brut et sauvage de celui qui est au-delà des méthodes et des techniques, qui a donc quelque chose de la nature, et l'aspect libérateur, novateur, audacieux, qui a quelque chose de la liberté. C'est donc bien un point de contact entre le règne de la causalité et le règne de la liberté. Pour reprendre la perspective kantienne, le génie, c'est la liberté qui se donne comme nature. C'est parfait comme définition. C'est ce qu'il y a de décourageant d'ailleurs, c'est le génie. C'est qu'il ne peut pas vous expliquer pourquoi il fait ça. Donc il se le donne comme nature. Alors parfois il fait un peu. Beaucoup posent au génie en disant « je ne peux pas expliquer pourquoi je fais ça ». Mais admettons qu'il n'y ait que des génies honnêtes. Voilà, le génie réalise quelque chose qui ne procède pas d'une technique ou d'une connaissance. Il est donc bien celui qui accomplit les définitions du beau que nous avons vues. Et qu'il accomplit comme nature, tout en manifestant par rapport à notre destinée une audace et une liberté qui fait qu'il nous conduit à voir ce que nous n'avions pas vu, à entendre ce que nous n'avions pas su entendre, à percevoir le monde comme jamais nous ne l'avions perçu. Alors même que ceci donc ne procède pas d'un savoir ou d'une technique, selon justement ce qui découle des définitions précédentes que j'ai esquissées. Texte numéro 9. Le génie est le talent qui donne les règles à l'art. Le génie ne suit pas les règles, il donne les règles. Bergson, plus tard, redéveloppera l'analyse dans une autre perspective, car on peut dire la même chose du saint, du sage, du héros et du génie. Le saint, le sage, le héros et le génie ne suivent pas les règles, mais ils donnent la règle. Le saint ne suit pas les règles. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en général, il est évincé de l'Église qui ensuite le baptise. Dans sa grande sagesse. Il ne suit pas les règles, mais il les donne. Le héros ne suit pas les règles, mais il les donne. Dans son insoumission même, il devient règle. Il est la règle. Le génie, le sage ne suit pas la règle de la morale, mais il la donne. Et de la même manière, donc le génie ne suit pas la règle, mais la donne. C'est-à-dire que derrière, tout le monde va imiter Picasso. Et donc, il va devenir, par son élan, ce que Bergson appellera un entraîneur d'hommes. Le génie et le talent qui donnent les règles à l'art, le génie est la disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne les règles à l'art. Donc on a bien notre Checkpoint Charlie. Il est là, c'est le génie. Tout art, en effet, suppose des règles sur le fondement desquelles un produit est tout d'abord présenté comme possible, si on doit l'appeler un produit artistique. Le concept des beaux-arts ne permet pas que le jugement sur la beauté de son produit soit cependant dérivé d'une règle quelconque, ce qui serait de l'académisme. Si le jugement dérive d'une règle, on est dans l'académisme. Mais il faut de l'académisme. Mais le génie est précisément celui qui va fonder un nouvel académisme sans le vouloir. Aussi bien, les beaux-arts ne peuvent pas concevoir eux-mêmes une règle d'après laquelle ils doivent réaliser leur produit. Or, puisque sans une règle qui le précède, un produit ne peut jamais être dit un produit de l'art, il faut que ce soit la nature qui donne la règle à l'art dans le sujet. Et cela, par la concorde des facultés de celui-ci. En d'autres termes, les beaux-arts ne sont possibles que comme produit du génie. Le XIXe siècle fait entendre ses premiers pas. Pour juger d'objets beaux comme tels, il faut du goût, mais il faut du génie pour les beaux-arts eux-mêmes, c'est-à-dire pour la production de tels objets. Troisième et dernière partie, avec Platon et Saint-Augustin, on a évoqué la rencontre de la beauté comme un chemin de conversion, comme ce qui me dit « tu dois changer ta vie, tu dois retourner ta vie, tu ne peux pas rester à traîner dans l'apparence et la médiocrité ». Et donc l'expérience de la beauté, que ce soit chez Platon ou chez Saint-Augustin, est ce coup de talon qui élève l'âme et la fait sortir des pesanteurs, des apparences et du quotidien. Peut-on avoir l'équivalence chez Kant et peut-on avoir l'équivalent même dans la modernité si justement l'expérience du beau n'est que le rapport qu'a le sujet, n'est que la représentation que j'ai? C'est sans doute pourquoi, à l'analyse du beau, Kant éprouve la nécessité d'ajouter celle du sublime. Et là, nous allons rentrer dans le romantisme. Car le plaisir du beau, on a dit, il est un analogue du vrai, il est un analogue du bien. Donc il est un comme-si, tout se passe comme si le monde avait du sens, tout se passe comme si le monde était vrai. Tout se passe comme si il y avait une vérité qui naît de ces représentations. Mais étant donné que, selon Kant, l'expérience du beau n'est plus intéressée par la réalité de son objet, on peut se contenter que ce ne soit qu'un comme si et on deviendra un esthète. L'esthète, c'est celui qui vit comme si. Comme si la vie était un spectacle, comme si la vie était un théâtre, comme si elle était intéressante. Et vous en avez un superbe exemple dans le chef-d'œuvre de Houellebecq, Soumission, que je vous invite à lire sans tarder. C'est un des rares chefs-d'œuvre que la littérature française ait produit depuis des décennies. Voilà, donc l'esthète, c'est celui qui vit sur le mode du comme-ci. Alors, on peut se contenter de vivre sur le mode du comme-ci sans que justement ce soit une conversion. Sans avoir à faire l'expérience d'une conversion, en se mettant au bord de l'expérience d'une conversion. Oh, ça serait beau si c'était vrai. Mais même pas d'ailleurs. C'est encore plus beau de ne pas être vrai. Oh, c'est tellement beau que c'est même au-delà du vrai, se dit l'esthète qui est prêt à tout transformer en spectacle. Donc à la rigueur, l'expérience du beau telle que la décrit Kant pourrait être celle d'un spectacle. Et alors à ce moment-là, elle n'inviterait à aucune conversion. Et c'est pourquoi, sans doute, Kant éprouve la nécessité d'aller au-delà de l'expérience du beau et d'évoquer celle du sensible, du sublime. Car le sublime est l'ouverture au suprasensible. Et il est l'ouverture au suprasensible par la violence que fait cette expérience, que nous procure cette expérience, car si le beau est une satisfaction, même désintéressée, c'est une satisfaction, c'est un plaisir, le sublime peut correspondre à une douleur. Car le sublime correspond non pas à l'ajustement de mes facultés, mais à leur contestation, à leur explosion, pourrait-on dire, qui, dans la mesure où mes facultés se trouvent trop étroites. Vous savez, comme dans Saint John Perse, étroitesse du cœur de l'homme à la table des grands. Lorsque Saint John Perse évoque l'homme face à la mer, il dit étroitesse. Donc la beauté, à ce moment-là, me fait découvrir mon étroitesse, et à ce moment-là, on l'appellera le sublime. Qui invite donc plus encore qu'à une expérience de la liberté à aller donc au-delà de cette expérience. Et c'est là que, selon un mot que l'on trouve déjà chez Plotin, l'expérience du beau peut être un effroi. Plotin parle de l'effroi du beau. D'ailleurs, dans la langue quotidienne, on dit c'est effrayant comme c'est beau. Et cet effroi du beau tient justement à la contestation de nos facultés, dans la mesure où le sublime donc nous ouvre à l'infini par le blocage, la stupéfaction de nos facultés. Je lis quelques lignes pour attester ces affirmations. Donc c'est au paragraphe 23 de la critique de la faculté de juger. La différence la plus importante entre le sublime et le beau est celle-ci. Si, comme il convient, nous ne considérons que le sublime relatif aux objets naturels, la beauté naturelle comprend en sa forme une finalité par laquelle l'objet semble être à l'avance adapté à notre faculté. En revanche, ce qui suscite en nous le sentiment du sublime, sans que nous raisonnions en la simple appréhension, peut paraître à la vérité en sa forme rien moins que final, inapproprié à notre faculté de représentation. Pour dire, violent notre imagination, et être néanmoins, pour cette raison, jugé d'autant plus sublime. Mais tout à l'heure, je disais, l'expérience du beau va nous dire que ce monde minéral est habitable. Mais l'expérience du sublime nous suggère que ce monde-ci peut aussi nous conduire à un autre monde, mais il nous conduira à un autre monde, non pas par la satisfaction de nos penchants, mais par la violence qui leur est faite. Violence qui est faite à mon imagination devant la grandeur d'une montagne, devant la grandeur d'un spectacle, devant la situation où je me sens minuscule et complètement dépassé. Et à ce moment-là, c'est même plus le monde habitable, en quelque sorte, voyez. C'est le monde même en temps qui serait inhabitable. Parce que trop grand, donc vous n'avez qu'à penser à la grande peinture romantique. Tout le monde a dans les yeux des peintures de Caspar David Friedrich, par exemple. Et c'est ce monde qui nous invite, cette expérience du sublime, qui nous invite précisément donc à nous ouvrir à l'infini. Si l'expérience du beau peut nous ajuster au fini, l'expérience du sublime est ou peut-être l'ouverture à l'infini par la contestation même, par la violence, c'est les mots qu'utilise Kant, hein, par la violence qui est faite au cadre de notre imagination, l'inimaginable, au cadre de notre perception. Le beau nous prépare à aimer quelque chose de façon désintéressée, le sublime à l'estimer contre notre intérêt, non seulement désintéressé, mais même contre notre intérêt, par exemple dans une perspective quasi-sacrificielle, qui est caractéristique du romantisme. Pour terminer, je lis simplement ces lignes du paragraphe 29. La satisfaction prise au sublime n'est que négative, tandis que celle qui touche au beau est positive. Il s'agit d'un sentiment dans lequel l'imagination se prive elle-même de liberté. Tiens, tiens, mais ça va au-delà même de notre expérience de la liberté. Ce faisant, elle acquiert une portée et une force plus grandes que celles qu'elle a sacrifiées, il y a le mot, hein, mais dont le fondement lui demeure caché, ou plutôt que celui-ci, et plutôt que celui-ci, c'est le sacrifice ou la spoliation qu'elle sent en même temps que la cause à laquelle elle s'est soumise, l'étonnement qui confine à l'effroi. l'horreur et le frisson sacré qui saisissent le spectateur à la vue des montagnes s'élevant jusqu'aux cieux. Il n'était jamais sorti de Königsberg. À la vue des montagnes, il faisait couper les arbres de ses voisins parce qu'il le gênait. L'étonnement qui confine à l'effroi, l'horreur et le frisson sacré qui saisissent le spectateur à la vue de montagnes s'élevant jusqu'aux cieux, de gorges profondes dans lesquelles les eaux sont déchaînées, de solitudes abritées par une ombre épaisse qui incite à la méditation mélancolique, ne peuvent donner naissance à une peur véritable, puisque le spectateur se sent en sécurité, mais sont une tentative à laquelle nous nous abandonnons afin de sentir la force de cette même faculté d'imagination pour lier le mouvement de l'âme. Cette réflexion de la faculté de juger esthétique pour rendre conforme l'imagination à la raison sans en posséder un concept... Bon, ça, je ne le lis pas. Je vous l'expliquerai si vous êtes sage après. Voilà, nous allons terminer par ce beau texte qui nous met aux portes du romantisme et philosophiquement et chronologiquement, puisque je rappelle, donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, à l'orée du XIXe, qu'en Allemagne, le mouvement Sturm und Drang, donc avec Schiller, Goethe, a commencé et que la grande révolution romantique est lancée.